Tout sur elle.
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 Tout
sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme depuis 10 ans. Avec cette profession-là, on m'a projetée sans ménagement dans le monde des femmes. J'ai ri avec elles, j'ai pleuré avec elles. Je les ai vues enceintes,
triomphantes,
violées,
attendries,
victimes de violences,
cabossées,
émerveillées,
avortées,
donner la vie,
allaiter,
perdre leur enfant,
douloureuses,
désespérées,
réglées,
ménopausées,
infertiles,
stériles,
grandies,
changées,
riantes,
libres.
Mes patientes, leurs familles m'ont tellement donné qu'aujourd'hui j'ai envie de tout partager. De transmettre le savoir académique que j'ai acquis, mais aussi celui que j'ai reçu des femmes que j'ai accompagnées.
Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. Je suis Nina Pareja, je suis journaliste. Je réalise ce podcast signé Anna Roy et produit par Acna Productions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tout sur elle. Anna, avant qu'on commence l'épisode, tu as un petit message.
Oui, je voulais remercier vraiment Charlie Crane, qui est un éditeur de mobilier design pour bébés et pour enfants. Merci à eux de soutenir aussi l'épisode.
Parfois dans Tout sur elle, quand Anna n'est pas spécialiste de la question, on se tourne vers quelqu'un qui l'est. Et aujourd'hui, on reçoit Hélène Malmanche. Elle est sage-femme et anthropologue, spécialiste des questions de bioéthique, de procréation médicalement assistée et de droit de la famille. Hélène, elle est aussi autrice d'un livre qui vient de paraître qui s'appelle « Ma Bible de l'accouchement sans douleur ». La préface est signée de quelqu'un qu'on connaît plutôt bien dans Tout sur elle, puisque la préface est d'Anna Roy. Merci beaucoup, beaucoup Hélène d'être avec nous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de l'infertilité. Toujours la même chose, qu'est-ce que c'est l'infertilité ?
Alors l'infertilité, ça, sur le plan médical, repartons de là, parce qu'il faut bien partir de quelque part. C'est aujourd'hui le contexte d'une tentative de procréation pendant une année qui n'aboutit pas à une fécondation, puis une grossesse, puis une naissance vivante.
Et quelle est la différence avec la stérilité ?
Ça a été des qualifications différentes. La stérilité avait une sorte de caractère définitif qui fait qu'on a plutôt laissé de côté ce terme.
D'accord.
Pour parler aujourd'hui d'infertilité ou d'hypofertilité. Parce que l'infertilité, on est infertile jusqu'à preuve du contraire, donc jusqu'à avoir un enfant. La stérilité donnait cette notion de définitive. Par exemple, la stérilisation tubaire ou la stérilisation par vasectomie. Là, c'est censé être une infertilité définitive. Donc, il y avait cette notion de...
Et là, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'infertilité définitive.
On va parler... Alors, non, on va pas parler d'infertilité définitive. Dans ce cas-là, on peut dire que une femme ménopausée, en dehors du cas où elle serait fécondée, enfin, où on transférerait un embryon, elle est stérile.
D'accord.
Ou un homme qui n'a pas de production de spermatozoïdes pour une raison X ou Y, on pourra dire de lui qu'il est stérile. Disons que l'infertilité, ça réinscrit ça dans une temporalité ouverte vers la potentialité d'une fertilité. La stérilité, ça ferme.
Et ça concerne l'infertilité, quel pourcentage des individus de la population française, par exemple ?
Là aussi, c'est compliqué à dire, puisque l'infertilité, on ne la voit que quand on cherche à procréer. Donc en fait, la statistique qu'on aura sera toujours corrélée à la tentative de mettre en œuvre cette capacité. Par contre, on sait que il y a une proportion de plus en plus grande de couples qui se tournent vers la PMA et que de 10 à 15 jusqu'à 20% des couples sont à un moment donné, alors des couples évidemment là je parle dans un cadre général qui est le cadre hétérosexuel, mais il y a aussi toute une diversité bien sûr hein, de contextes dans lesquels se déploie la question
10,
de la famille.
10 15 20% de couples infertiles.
Non, qui sont confrontés à un moment donné.
Ah bon ?
Aux questions de la fertilité. Ça ne veut pas dire qu'il y a un couple sur cinq qui va finir en PMA.
Oui, j'entends.
Mais en tout cas, qu'il y ait une consultation médicale.
Ah, c'est incroyable.
Oui, mais en fait, on en voit déjà dans nos cabinets. Il y a énormément de femmes qui viennent nous voir, qui nous disent, bon, ben voilà, ça fait 6 mois, ça fait...
J'avais en tête ce chiffre de 6%. Alors, je sais pas d'où est-ce que j'ai ce chiffre, qui a dû sortir de je ne sais où, mais...
Non, c'est peut-être, tu as en tête le nombre d'enfants qui naissent de la procréation médicalement assistée. Et ça, c'est à peu près 5 à 6%.
Ah, bah, c'est ça.
Voilà. Exact, mais attention, les naissances, c'est une toute petite fraction des gens pris en charge en PMA. Et les gens pris en charge en PMA, c'est là aussi une fraction plus petite que l'infertilité qui peut concerner des gens bien au-delà, en fait. Mais il y a des gens qui refusent de s'inscrire dans un parcours de procréation médicalement assistée. Donc là encore, donner des chiffres, bon, on peut, mais en fait, c'est de quels chiffres on parle. Et donc, ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a une vraie question sociale aujourd'hui qui est la confrontation à un échec procréatif. Et quelle place on fait à ça aujourd'hui dans notre société ? Notre réponse est avant tout une réponse médicale, mais elle n'est pas que médicale.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un problème extrêmement fréquent. Voilà ce qu'on peut dire.
Oui, bien sûr. Il y a énormément de femmes qui se retrouvent confrontées à la question de savoir, bon, est-ce que j'y arrive ou est-ce que j'y arrive pas ? Et je dis bien énormément de femmes, alors même que les hommes sont autant concernés par l'infertilité que les femmes. Là aussi, il ne faut pas se voiler la face quant au fait que dans les centres médicaux de PMA, il y a autant d'infertilité masculine que d'infertilité féminine que d'infertilité inexpliquée. Quand on regarde les statistiques...
C'est 30-30-30.
Ouais, exactement. Un tiers, un tiers, un tiers. La responsabilité de l'infertilité, elle est autant partagée par les hommes que par les femmes, mais on ne parle que de l'infertilité des femmes, et parce que c'est aussi celle-là qu'on a particulièrement étudiée.
Et qu'est-ce qui peut causer l'infertilité, du coup ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que ça peut être une question de compatibilité entre deux personnes ? Comment on peut savoir ça ?
Là, si on repart des chiffres de la procréation médicalement assistée, donc des chiffres de la prise en charge médicale, déjà, ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est ce un tiers des patients pour qui on ne détecte aucune anomalie organique, mécanique, mais pour lesquels on n'arrive pas à obtenir une grossesse, ni par la médecine, ni par la sexualité procréative. Et donc, dans ces cas de figure-là, on peut se dire, mais à quoi ça tient ? Donc il y a ces incertitudes là qui nous font regarder autrement les facteurs cellulaires. Pour autant, ces facteurs là existent. On sait que une mauvaise mobilité du sperme ou des anomalies de la forme des spermatozoïdes, tout ça, ce sont des éléments qu'on peut évaluer, et où on sait que si on utilise par exemple l'ICSI, qui est une méthode où on choisit un seul spermatozoïde qu'on va injecter dans l'ovocyte, on va du coup permettre des fécondations qu'on n'aurait pas pu obtenir si on avait juste mis en contact dans une boîte de pétri le sperme avec les ovocytes. Donc il y a des infertilités qu'on peut lever de cette manière-là, parce qu'il y a par exemple des incompatibilités ou des difficultés à la fécondation. Et de l'autre côté, il y a aussi des questions de qualité ovocytaire ou de quantité aussi, qui peuvent être là aussi levées grâce à la fécondation in vitro, mais pas toujours. Et sur ces questions de qualité ovocytaire, on a parlé un petit peu la fois précédente, mais on ne connaît pas grand-chose. On ne sait pas comment... on ne sait pas, en fait, à l'œil nu, au microscope, on ne sait pas identifier un ovocyte. Et on ne sait même pas quels seraient les critères à observer entre un ovocyte, entre guillemets, de bonne qualité ou, entre guillemets, de moins bonne qualité. Et puis, c'est un peu la même chose avec les embryons. On a toute une classification, il y a des beaux embryons, il y a des embryons beaucoup moins beaux, mais en fait, il y a des embryons pas très beaux qui fonctionnent et qui arrivent à s'implanter et à se développer, et donnent des très beaux bébés qui vont très bien, et puis des magnifiques embryons, on sait pas pourquoi, mais ça marche pas. Donc, faut rester très modeste en matière de procréation. On peut dire que c'est une science, mais en fait, on tâtonne complètement, on essaye. C'est des tentatives.
La question, c'est quand on désire avoir un enfant, au bout de combien de temps il faut se dire... Je vais voir une sage-femme, je vais voir un médecin, parce que tu disais l'infertilité c'est 1 an, mais je me mets dans la peau d'une femme, moi je crois qu'au bout de 2 mois ou 3 mois, j'aurais sauté à la gorge d'une sage-femme ou d'un médecin en me disant mais pourquoi ça ne marche pas ?
Absolument, cette définition médicale qui est la définition générale, alors il y a pas si longtemps c'était 2 ans de tentative, donc on se projette dans 2 ans de « oh bah oui je vais bien voir si ça vient demain », non c'est pas possible. Nous sommes des générations qui avons connu la contraception et on enlève la contraception au moment où le désir d'enfant est présent, en général. Et donc, si le désir est présent, on se souhaite que ça intervienne dans une temporalité proche. Tout en sachant, tout le monde sait, tout le monde est toujours précautionné en disant « oui, bon, on arrête la contraception, mais ça peut mettre du temps ». Sauf que quand ça met du temps, ben oui, c'est aussi du temps anxieux, en fait, du temps où on se pose des questions. Je suis plutôt partisane de passer ce temps-là, non pas dans une sorte de nébuleuse où on attendrait sans savoir, mais si on en ressent le besoin, et si c'est un temps qui est chargé d'une part d'angoisse, et c'est souvent le cas, là aussi, j'incite vraiment à faire un bilan de fertilité. On ne gagne rien à attendre. Qu'est-ce qu'on gagne à attendre? Oui, ok, une économie pour la sécurité sociale, bon, d'accord. Je l'entends, mais pour moi c'est pas un argument recevable quand je suis face à des patientes qui ne sont pas bien en fait et qui peut-être du coup par cette angoisse diminuent leur chance in fine d'avoir des enfants, donc vont aller vers la PMA qui là est quand même beaucoup plus coûteuse qu'un bilan de fertilité. Donc l'un dans l'autre, moi je prescris, j'assume complètement le fait de dire à mes patientes, bah si c'est une question qui vous angoisse, je vais pas m'opposer à vous prescrire un bilan.
On ne sait pas vraiment les causes de l'infertilité, mais quand même, chez la femme, est-ce qu'on a quand même quelques pistes sur ce qui peut causer l'infertilité féminine ?
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que autant on ne peut pas dire c'est quoi l'infertilité, mais par contre, on sait qu'il y a des facteurs favorisant de l'infertilité. Et on sait que donc l'endométriose peut être un obstacle à la procréation. On sait que l'obésité, on sait que le tabac, on sait que l'exposition à certains produits toxiques pour certains métiers peuvent être des facteurs qui diminuent la fertilité, donc dans la mesure du possible, on essaye de réduire ces facteurs de risque. Mais par contre, on a aussi des patientes qui sont en pleine forme, qui ne fument pas, et voilà, sont vraiment tout à fait ont une hygiène de vie irréprochable, et pour autant n'arrivent pas à tomber enceinte.
Combien de temps se donne la science pour dire bon bah là manifestement ça ne marche pas, donc on va passer à, je sais pas, une stimulation ovarienne ou à
ça va dépendre de l'âge. Ça va dépendre de l'âge.
D'accord.
Vraiment. Mes patientes qui auraient 35 ans, quand bien même elles ont un bilan de fertilité qui est normal, au bout de 6 mois, si rien ne se passe, je leur conseille d'aller voir un confrère qui est spécialisé en PMA, un confrère gynécologue, puisque moi je suis limitée dans ma prescription.
Donc à partir de 35 ans, c'est-à-dire que 40 ans, ce serait la même chose, c'est 6 mois.
Ah non, non, non. C'est là, ça va être variable. C'est-à-dire qu'à 40 ans, et là aussi, ça va dépendre du bilan. Donc les notions d'âge, elles sont toujours difficiles à...
Oui.
À donner, mais c'est sûr qu'une patiente de 28 ans qui aurait déjà eu un enfant et qui se retrouve, qui me dit, bah là, ça fait 6 mois que j'essaye. Bon, je vais essayer de chercher quels sont les facteurs qui pourraient faire en sorte que...
Qu'on peut lever.
Voilà, c'est
facilement.
Ça. Et ben, en fait, je me rends compte qu'elle allait encore, ou je me rends compte que ils ont eu un déménagement, qu'il y a eu quelque... Donc là, je vais vraiment pas, je vais dire, ok, laissons-nous 6 mois, voilà, il faut, parce que 6 mois, c'est jamais que 6 cycles, finalement. Et si on se souvient du fait que, au maximum de notre fertilité, on a qu'une chance sur 4, ça veut dire que, grosso modo, il faut 4 cycles.
Alors, moi, j'ai jamais compris ce une chance sur quatre. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, on relance notre chance d'avoir une chance sur quatre.
Ouais.
Donc, ni ça me nuise au fur et à mesure des cycles, ni ça augmente.
Alors oui et non. Ça, c'est, là, tu vas chercher un peu loin sur mes connaissances statistiques. Mais je sais que c'est comme le tirage du loto. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le tirage est nouveau et donc on repart de zéro. Mais il y a quand même une suite, cette statistique qui te permet de savoir à peu près au bout de combien de fois tu as quand même une chance de gagner au loto. Donc c'est parce que c'est pas la même chose finalement de jouer une fois ou de jouer 100 fois au loto. Alors même que à chaque tirage,
d'accord,
il y a le même pourcentage de chance de gagner.
Mais grosso modo, c'est quand même, on rejette les dés et on voit ce que ça, et c'est une chance sur quatre, quoi.
Oui, voilà. En gros, retenons qu'il y a 25% de chances de tomber enceinte par cycle.
Ok.
Quand on est au maximum de sa fertilité.
Ok. Et alors, tu dis une chance sur 4. Ok, à 35 ans, c'est combien ?
À 35 ans, on passe en dessous de la barre des 20%.
Ouais.
Et progressivement...
Et à 30 ?
À 30, c'est un peu... Bon, on est entre les 25 et 20. Donc,
d'accord.
Donc, ça reste... Le déclin, en fait, est très doux au début. Et vraiment, la pente... devient quasiment à pic après 35 ans. Donc la décroissance est vraiment assez fulgurante pour arriver à moins de 5% de chance une fois qu'on arrive dans les zones extrêmes, entre guillemets, de la prise en charge de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire 42-43 ans.
Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont infertiles ou est-ce que juste les femmes essaient d'avoir des enfants plus tard ?
Les femmes essayent d'avoir des enfants plus tard. Et donc, on a l'impression qu'il y a plus d'infertilité. Mais pour le rapporter à une tranche d'âge donnée. Est-ce que les femmes de 30 ans ont plus ou moins de mal à avoir des enfants aujourd'hui que hier ? Ça, a priori, la réponse est non.
Ah bon ?
Non.
Bon, bah, très bien, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais en même temps, les grossesses sont choisies. Donc, toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on peut comparer ? Avec quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comparer les femmes de 30 ans des années 70 avec les femmes de 30 ans d'aujourd'hui ? Pas du tout. on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas le même environnement, on vit pas dans le même monde. Donc en fait, sauf à se dire je compare un corps avec un autre corps et on voudrait dire que en fait on est face à deux machines, à partir du moment où on prend en compte le fait que nous vivons en société et que ça influe, enfin nos corps sont la société, font partie de la société, bref, on peut pas les extraire en fait. L'humain, on peut jamais l'extraire de la société, donc on pourra toujours faire des statistiques, mais est-ce qu'on est vraiment en train de comparer des choses comparables?
Et justement, donc quand on rencontre un problème d'infertilité, qu'est-ce qu'on peut faire?
Quand on en arrive au moment où au bout de X mois, et je peux pas donner le nombre de mois parce que ça dépend de chaque histoire, de chaque trajectoire, mais en tout cas quand on arrive au moment où on sent que on peut plus se passer d'une aide extérieure, quelle qu'elle soit, on la met en œuvre, et donc il faut venir chercher de l'aide au moment où on en a besoin. Dans le cadre de l'aide médicale à la procréation, il va y avoir différentes étapes. Il va y avoir d'abord peut-être la proposition, et là aussi ça va varier selon les histoires, mais je donne un panorama général. On va proposer un monitorage de l'ovulation si on se trouve dans des âges où il n'y a pas de baisse de la fertilité a priori, et où on a un bilan de fertilité correct. On va donc proposer peut-être ce monitorage de l'ovulation pour essayer de vraiment cibler les rapports autour du moment de l'ovulation, tout en ayant aussi proposer un spermogramme si c'est un projet de couple avec un homme, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infertilité masculine, bien sûr. Impossible à dire, mais au moins qu'il n'y a pas d'anomalie du spermogramme qui nous permettrait, enfin qui nous orienterait vers une potentielle infertilité d'origine masculine. Si au bout de 2 ou 3 cycles, il n'y a pas de grossesse, il va y avoir la proposition peut-être d'une stimulation hormonale pour la femme, si y a un léger déficit, on va dire, à ce niveau-là. Et sinon, ça va être une prise en charge médicale de la fécondation, d'abord par des inséminations. Et au bout de 2 tentatives, parfois 3 tentatives, on va, s'il y a toujours un échec de procréation, on va passer à la fécondation in vitro. Et très souvent, on utilise dès les premières tentatives une méthode mixte, donc où on va à la fois garder, mettre en contact dans une boîte de culture les ovocytes avec le sperme, et on va aussi féconder une partie des ovocytes directement en choisissant des spermatozoïdes. Et très souvent, on fait comme ça des couvées d'embryons mixtes, entre guillemets. Il y aura ensuite un transfert d'embryons. Et donc là, on peut enchaîner les tentatives, sachant que parfois, on fait des stimulations qui ne peuvent pas aller jusqu'à la ponction. Parfois, on fait des stimulations, on obtient des ovocytes, mais on n'arrive pas à les féconder. Parfois, il y a une fécondation, mais les embryons obtenus ne sont pas de bonne qualité, ou il n'y en a pas beaucoup. Donc bref, en fait, tout ça fait qu'il y a beaucoup de temps qui se passe. Et c'est ça qui est difficile dans la vécue de la PMA, c'est qu'il y a des moments extrêmement condensés où il se passe beaucoup, beaucoup de choses, et alors là, ça prend toute la place dans notre vie, et des moments très distendus où on attend, et on attend. On attend et on attend. Et ça, c'est très difficile.
Et sur la totalité des gens qui seraient pris, on va dire, à partir de la stimulation, qui sont pris en charge donc pour la procréation médicalement assistée, quel est le risque de ne pas y arriver? Est-ce qu'on sait, par exemple, que sur cette cohorte de gens-là, eh bien, malheureusement, il y en a 10% ou 20 ou je sais pas, ou 40 qui n'y arriveront jamais?
Je suis super nulle en chiffres, alors je saurais pas te dire.
Non, mais ça dépend, tu vas me dire, en fait, ça dépend de l'âge, quoi. Mais est-ce qu'on nous dit ça au départ? Parce que moi, souvent, ce que me disent les couples, c'est qu'ils aimeraient qu'on leur dise, bah oui, a priori, ça va marcher, ou bah on pense que quand même, ça va pas marcher. Est-ce qu'on est capable de leur dire ça ou pas? Même pas.
Non, on peut regarder les taux de réussite des services qui sont dans les 20%.
Oh là là, putain, c'est très peu.
Oui, c'est peu, mais ça
dépend vraiment conditions de départ.
Oui, et c'est aussi, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des patients aussi qui sortent du parcours de PMA et qui vont quand même avoir des enfants. Des gens qui ont été en parcours de PMA, ils changent de conjoint, ils changent de partenaire, et là, ils n'ont plus aucun problème de fertilité.
D'accord.
Et là, tout marche.
D'accord.
Il y a aussi ça. Donc en fait, c'est pour ça que les chiffres, moi, bon oui, on peut les donner, mais en fait, ça remplace jamais le sens clinique, ça remplace jamais le fait de dire, ok, pour vous, pour votre cas à vous, là, ce que je peux sentir ou ce que je peux comprendre de votre situation, par toutes les connaissances évidemment qu'on a, c'est pas juste notre pif, c'est pas au doigt mouillé, mais dans notre cerveau, toi ou moi, à chaque fois, on a tellement de choses qui se passent dans notre tête pour ce qu'on va ressortir in fine à notre patiente, enfin, toutes les informations qu'on aura agrégées, tout ce qu'on aura mis en balance, tout ce qu'on aura, c'est impossible d'en faire le schéma général, puisque à chaque fois c'est différent. Donc bon, bref, tout ça pour dire.
Enfin, c'est quand même des parcours qui peuvent être semés d'embûches et quand même extrêmement longs et
difficiles. Bien sûr, et surtout, ils sont pas du tout avec, il y a pas une garantie de réussite au bout. Ça c'est sûr.
C'est ça qui est très dur.
Oui, c'est ça qui est très dur.
À défaut de savoir exactement, d'avoir des chiffres précis sur la réussite des PMA, est-ce qu'on sait en général au bout de combien de temps pour les couples pour lesquels ça marche, la femme tombe enceinte en fait ?
Ah oui, c'est vrai.
Très bonne question, franchement. Encore une fois, je suis pas très bonne à sortir des chiffres et des chiffres. J'imagine que ça se situe plutôt... Enfin, c'est de l'échelle de l'année, donc c'est plutôt un an ou deux ans de prise en charge.
La Sécurité sociale, elle rembourse tous les parcours de PMA, ou au bout d'un moment, elle dit « c'est bon, vous avez fait assez de tentatives, c'est terminé, là, on arrête ».
Alors en fait, y a plusieurs choses. Il y a une limite d'âge quand on est une femme, au-delà de 43 ans. Alors ça, c'est en train de changer avec la nouvelle loi de bioéthique, je crois qu'ils ont repoussé à 45, il faut que je révise un peu, mais il me semble que c'est ça. Il y a donc cette limite-là du temps, en fait, parce qu'on sait qu'au-delà de 45 ans, surtout avec ses propres ovocytes, la chance, elle est vraiment tellement infime que ce serait pas bénéfique de leur proposer ça. En tout cas, la société, à un moment donné, dit « on n'assume plus ça, on n'assume plus cette prise de risque ». Par contre, il n'y a pas d'interdiction, en fait. Donc, on peut toujours continuer. Après, sur le remboursement des FIV, en fait, la France va rembourser un nombre limité de tentatives, mais le compteur est remis à zéro à chaque fois qu'il y a une grossesse qui est obtenue. Donc c'est presque en illimité quelque part. Et ça, c'est assez exceptionnel. La France est quand même...
Donc si tu tombes enceinte et que tu perds le bébé, ce qui arrive aussi, non, c'est remis à zéro.
Oui.
Okay. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris, pardon.
Oui.
Parce d'accord. que c'est ça aussi. Enfin,
des fois, une grossesse.
Ils tiennent pas, etc.
Quelle que soit l'issue de la grossesse. D'accord.
Est-ce qu'il y a des risques en termes de santé de faire un certain nombre de parcours différents? Est-ce que ça peut avoir des conséquences?
Alors, ça, c'est aussi une question qu'on se pose, mais sans doute qu'il y aurait une augmentation du risque, une légère augmentation du risque de cancer, mais qui serait pas plus élevée qu'avec la pilule, par exemple. Oui, il y a indéniablement un effet, enfin, c'est pas anodin d'avoir des injections très fortes d'hormones, surtout quand c'est des parcours qui s'étirent pendant des années et des années. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que dans la vie, on est amené à faire des choix et à prendre les risques qu'on veut pour obtenir ce qu'on souhaite. Donc, est-ce que ça va arrêter pour autant les femmes? Sans doute que pour certaines, c'est l'envie d'avoir un enfant est peut-être moins forte que la peur d'avoir un cancer lié aux hormones. Mais sincèrement, j'ai très rarement, voire jamais, rencontré ce cas de figure-là, en fait.
Et juste une autre question, Hélène, pour finir. Les patientes qui ont réussi à obtenir des grossesses et donc que voient les sages-femmes, en tout cas les sages-femmes quand elles sont pas en service de PMA, qu'on voit en salle d'accouchement, témoignent de leur immense souffrance, de toutes ces mois, années d'errance. Elles disent que souvent les médecins et les sages-femmes des services de procréation médicalement assistée des hôpitaux sont débordés, comme tous les autres, et qu'elles se sentent comme des espèces de fétus de paille qu'on balade. Est-ce qu'il y a un moyen de pas vivre ça comme ça?
De pas vivre l'errance médicale.
Oui, de pas être, d'avoir l'impression oui. Et puis parce qu'on comprend, c'est-à-dire que ces médecins et ces sages-femmes, ils font ce qu'ils peuvent, mais on sait qu'ils sont débordés et qu'ils ont un temps octroyé qui est très court, et puis qu'ils peuvent pas donc répondre à la souffrance. Et la solution psy systématique n'est pas forcément la bonne non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Comme une sorte de préparation à la naissance, ou qui serait un moment comme une préparation la procréation, c'est-à-dire qu'à un moment à soi, mais professionnel quand même.
Oui, bah alors, enfin, ça c'est un constat pour le coup qui me vient de mon expérience d'anthropologue, c'est-à-dire qu'en allant sur le terrain et en observant les pratiques de mes confrères, consoeurs, et en interrogeant les femmes et les couples qui sont passés par là. Ce qui était frappant, c'était de voir à quel point il y a une violence systémique qui est subie à la fois par les professionnels et par les patients. Hein. C'est pas, il y a pas que les patientes qui trinquent, mais c'est comme pour les maternités, c'est-à-dire que la réduction drastique du temps offert aux patientes fait que on comprend absolument rien à ce qui nous arrive et que il y a pas vraiment de solution parce qu'on peut pas lutter contre une machine énorme. C'est un peu David et Goliath, ou enfin je sais pas, ou le, enfin il y a la montagne et la souris, quoi. Il y a vraiment une disproportion telle entre la puissance systémique la machine, en fait, qui est mise en marche, où faut tellement, y a des cadences tellement infernales, face aux besoins de, d'explications, qui...
Oui, donc qui, c'est pas qu'on est une merde, parce que ça, souvent, les femmes se sentent merdiques, elles disent...
Non, pas du tout.
Voilà, moi, je sais pas, parce que je suis trop faible psychologiquement, etc. Non, non parce que la prise en charge dont elles jouissent est insuffisante.
Exactement. Et là, avec mes patientes, je suis infoutue, vraiment, de passer moins de 40 minutes avec une patiente, surtout des patientes que je vois pour la première fois. Simplement juste se poser, écouter leur histoire, savoir où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours et leur expliquer ce qui va se passer. Je ne fais rien d'autre que ça. Mais de prendre ce temps-là, en fait, ce temps-là de l'écoute et de l'explication et aussi de remettre du sens là où on s'intéresse juste à des chiffres, à des images, et où on leur dit pas ce que
donc
ce
on
qui
peut
se
très bien être, soyons très concrets, est-ce qu'on peut imaginer donc être suivi par une sage-femme
Mais personne ne propose ça. Enfin, je crois pas qu'il y ait des consoeurs qui proposent ça actuellement. Et je jette pas du tout la pierre. C'est que ça n'a pas été pensé. Donc, à un moment donné, on est formé comme on est formé. La question, ce serait plutôt comment on peut aider aussi. Déjà, je crois qu'il y a beaucoup de. Alors là, on prêche pour notre paroisse, hein, c'est sûr. Mais je pense que c'est une compétence particulièrement développée chez les sages-femmes. Cette capacité à expliquer, écouter, sans chercher forcément à intervenir. On n'a pas forcément le scalpel entre les dents, hein, comme qui dirait, mais c'est ça dont les femmes, dont les patientes et les patients ont besoin, prendre du temps pour les écouter. Et ça, c'est pas valorisé du tout. C'est-à-dire que la Sécu, si on fait rien, si je ne prescris rien, même si je prescris, en fait, je suis pas mieux payée. donc, le temps passé, alors même que c'est ça qui, au final, va, en termes de santé publique, à mon sens, et ce qui nous préserve des dépressions, de la prescription largue à manu de médicaments, en réalité, oui, juste du temps d'écoute clinique et de l'accompagnement, comme tu dis, on a une préparation à la naissance. Moi, je milite pour qu'il y ait une préparation préconceptionnelle, qu'il y ait un accompagnement préconceptionnel. Il est nécessaire et d'autant plus que les questions de procréation sont devenues justement des questions sociales. Ça ne l'était pas. Où elle se posait différemment avant la contraception. Le problème, c'était les femmes qui tombaient enceintes et elles ne voulaient pas des grossesses. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. C'est des femmes qui voudraient tomber enceintes et qui n'y arrivent pas.
Ah, moi, je suis sidérée. 15 à 30%, là, je vais pas m'en remettre de sitôt. Hein.
De quoi?
Donc, c'est énorme. Jamais j'ai imaginé que c'était des proportions telles.
Que les femmes soient, à un moment donné, amenées à consulter pour des questions de difficulté de procréation.
Je trouve ça énorme.
Oui.
Mais c'est d'ailleurs ce qu'on constate quand on est sage-femme.
Mais c'est sous-estimé, puisque ouais, ça arrive toujours à un moment donné dans la conversation. Et ouais. on les compte pas comme étant des consultations d'infertilité.
Est-ce qu'on peut bénéficier d'un accompagnement psychologique avec un psychologue quand on est en parcours de PMA?
Oui, on peut toujours. La question, c'est est-ce que ça doit être systématique? Et c'est vrai que le renvoi vers le psychologue par les confrères et collègues, il est sans doute beaucoup trop rapide. Parce que des gens qui ont besoin d'un suivi psychologique, il y en a, mais il y a juste surtout une majorité de gens qui ont besoin qu'on leur parle et qu'on les écoute, mais ils n'ont pas de problème psychologique particulier qui nécessiterait un soutien psychologique. Donc, il manque cruellement d'explications, mais les gens sont soulagés. Je reçois des mails de mes patients qui me disent mais merci, enfin je suis soulagée, ça fait juste du bien, et je ne suis pas psychologue. Mais donc il y a tout un tas de manières d'apporter du soulagement simplement par la mise en mots, l'explication, et il n'y a pas besoin d'avoir une formation de psychologie qui est autre chose, qui est extrêmement utile, précieuse, mais en fait, ce renvoi systématique, quasi systématique, hein, vers les psychologues, me semble être plutôt le témoignage de l'absence de temps de parole. Et donc, du coup, le seul espace de parole qui existe pour l'instant, c'est les cabinets des psychologues, mais qui ne connaissent pas forcément la PMA, qui n'ont pas forcément cette expérience clinique et ne peuvent pas répondre à des questions extrêmement simples, qui disent, mais attendez, mais pourquoi... Enfin, mes patientes, c'est des questions parfois toutes bêtes, qui disent, mais alors là, je dois faire mes injections dans le ventre et dans la cuisse, mais si je fais les deux dans la cuisse, est-ce que ça va faire quelque chose? Enfin, c'est des choses très bêtes, mais c'est ces réponses-là aussi dont elles ont besoin. Et donc, c'est pas que des questions sur, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire de qu'est-ce si moi, je peux pas transmettre? C'est aussi d'autres questions, bien sûr, ces questions intergénérationnelles que les psys sont sans doute peut-être les mieux placés pour traiter, parce qu'ils ont reçu une formation spécifique pour ça. Quand on a du temps, quand on est clinicien, en réalité, on sait déjà répondre à 95% de la demande. Donc, mais c'est quand on a du temps.
Pour toi, ce serait quoi la meilleure manière d'accompagner les femmes et les couples qui veulent faire des PMA? Comment on pourrait améliorer ce parcours?
Il y a déjà une question de personnalisation du parcours. Ça, c'est vraiment, pour moi, le maître mot. Et donc, qui dit personnaliser, dit prendre le temps. Et ça veut dire aussi des praticiens et des praticiennes sensibles, avec un sens clinique suffisamment aigu pour avoir envie de sortir du systématisme un peu rapide, peut-être, hein, du protocole. Bon, on vous prescrit ça, et puis voilà, et puis on va voir ce que ça donne. En fait, il n'y a pas que de l'enrobage autour de ces examens-là. Non, il y a vraiment aussi une question fondamentale à poser aux gens sur la famille. Parce que c'est ça qui est en train d'être fait. C'est pas juste de la procréation. Enfin, la procréation, c'est juste une étape très importante, mais c'est une étape de la famille. En tout cas, les gens qui viennent nous voir, sauf les personnes qui sont dans une démarche de don, mais c'est quand même ça l'idée qui est derrière, même si c'est une famille incertaine, quand on se pose la question, bon, je vais cryopréserver, mais est-ce que je voudrais l'utiliser un jour, j'en sais rien, est-ce que je veux une famille un jour, je sais pas, mais c'est quand même la mise en question de la famille, et donc c'est jamais une petite question, cette question de la famille, et donc ça demande du temps, et ça demande aussi, dans une société où les familles sont plurielles, ça demande de s'ouvrir à la diversité des situations, et ça, je pense que ça doit faire l'objet d'émissions ultérieures plus spécifiquement consacrées à ces parcours et à ces trajectoires variées et celles dont on parle, je trouve, assez peu, qui sont les femmes qui s'engagent dans des maternités solo. On parle beaucoup des couples de femmes, mais en réalité, là, ce que les collègues constatent dans les prises de rendez-vous, puisque maintenant la PMA pour toutes, ça commence, c'est surtout des femmes en projet solo qui prennent rendez-vous. Et c'est assez peu des couples de femmes, et les praticiens, les collègues sont surpris de ça. Vraiment surpris. Et moi je le suis pas, parce que je connais bien le terrain, mais je constate leur surprise et ils s'attendaient pas du tout à ça.
On consacrera évidemment un épisode à la PMA pour les couples de femmes, à la PMA parcours solo, à tout ce que ça veut dire la PMA plus intensément. Vous inquiétez pas, on arrive avec plein d'informations. Merci beaucoup, Hélène.
Tout sur elle, c'est un podcast d'Anna Roy avec moi, Nina Pareja, produit par ACNA Productions. Et on vous retrouve toutes les semaines pour un épisode sur la santé physique, psychique et sociale de la femme. Merci de votre écoute, à très bientôt.
Musique, Anno Domini Beats, Like That.